tu devant l'église sans entrer dedans, il est là. Et tu passes sans lui rendre visite. C'est pas bien. Et c'est vrai, l'enfant a le sens de la présence. Le sens de la présence de sa mère. On sait très bien, hein, quand la mère doit s'en aller, hein, c'est des pleurs et des grincements de dents. C'est le purgatoire, parce que la mère s'en va. Quand le père et la mère s'en vont, c'est une rupture. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas multiplier ces ruptures. Il faut les faire prendre d'une façon bonne, en le faisant comprendre qu'on sera bientôt là, qu'il faut attendre. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est beaucoup éduquer l'affectivité. L'empêcher de rester sur des ruptures, parce que ça a beaucoup de conséquences après. L'enfant a un sens de la présence de la mère. Eh bien, les sacrements, c'est le côté affectif du Christ. C'est le côté de son amour, c'est le côté de son cœur. C'est pour ça que saint Augustin nous dit que les sacrements jaillissent de la blessure du cœur de l'agneau. Et tous les sacrements jaillissent de la blessure du cœur de l'agneau. Tous les sacrements sont liés à la blessure de Jésus, aux dernières gouttes d'eau et de sang. C'est la surabondance de l'amour qui nous est donnée à travers les sacrements. Et c'est peut-être cela que nous devons faire comprendre. Dans la première éducation chrétienne, les parents sont responsables dans l'éveil de la foi, sont responsables de ce côté de la présence, de ce côté affectif, de la grâce du Christ communiquée à travers des symboles. L'enfant est sensible aux symboles plus qu'à l'écriture, plus qu'à la parole. Il est sensible à cela. Et quand on lui fait comprendre que ce symbole a quelque chose d'unique et qu'il communique une vertu, comme la présence de la mère a quelque chose d'unique, elle communique une vertu qui calme, qui apaise l'enfant. Alors une fois qu'on essaie de faire comprendre cela aux enfants, on prépare l'enfant à découvrir la grandeur des sacrements. Il la découvrira que progressivement, que lentement. Mais voyez, il faut d'abord que les parents comprennent. Il faut d'abord que les parents comprennent ce langage affectif, aimant, d'une présence invisible qui se donne à nous de cette manière tout à fait particulière. Et qui se donne à nous de cette manière tout à fait particulière parce que, justement, l'amour n'accepte pas les ruptures. L'amour veut la présence de celui qu'on aime. La parole nous donne la lumière, mais ne nous donne pas la présence de la même manière. La parole nourrit notre intelligence et notre foi, mais ne nourrit pas de la même manière notre espérance et notre charité. Et c'est cela qu'il faut comprendre, que la préparation au sacrement et familiale. C'est lié à la grâce de la famille, d'une façon très particulière. Et ceci, le prêtre ne peut pas le faire. Le prêtre enseignera le catéchisme. Oui, c'est très bien de demander au maire d'enseigner le catéchisme, mais le prêtre ne doit pas abdiquer. Il doit se servir des maires, c'est très très bien, pour préparer. Mais le premier enseignement donné, c'est quand même le catéchisme. Et là, il faut que le prêtre soit présent pour communiquer la foi. Parce que le catéchisme, c'est la communication de la foi à travers la parole du Christ. Alors, s'il est très pris, c'est évident, on comprend très bien, mais qu'il n'abdique pas. Il n'a pas à abdiquer. Et les mères qui enseignent le catéchisme doivent demander à leur prêtre de ne pas abdiquer. Et pas uniquement dire, je enseignerai les catéchismes, c'est suffisant, maintenant débrouillez-vous. Pas du tout. On n'a pas le droit de faire ça. Que les mères soient des assistantes, qu'elles aident, mais il faut que le prêtre soit là pour l'enseignement. Le sacrement, ah, il est plus familial. C'est curieux de voir ça aujourd'hui. On abdiquera facilement l'enseignement du catéchisme et on revendiquera le point de vue des sacrements d'une façon très impérative. C'est curieux. Alors que je dirais, attention, l'enseignement, c'est l'Église, c'est le prêtre. Et les sacrements, dans leur préparation, c'est la famille. La famille doit préparer le sacrement de baptême. C'est bien évident. Et elle prépare le sacrement de baptême dès que la mère sait qu'elle attend un enfant. Et dès que le père sait que son épouse attend un enfant. La préparation du baptême doit se faire parallèlement à l'attente de la naissance. Ce temps de l'avant familial dont je vous parlais la dernière fois. J'en reparle ici de cette note particulière par rapport au baptême. Vous savez bien ce que toute une tradition théologique dit, que le désir de la mère par rapport au baptême pour son petit peut remplacer le baptême si un accident arrive. Et que l'enfant ne peut pas être baptisé, et qu'il meurt avant. Le désir de la mère, et ça la mère ne doit pas l'oublier, et ça c'est la plus belle des préparations, c'est la mère qui porte cet enfant, qui l'offre à Dieu, et qui demande tout de suite cette grâce au Christ, qu'il soit un de ses petits-enfants, sauvé par lui. C'est la mère qui doit le demander. Et elle doit le demander dans l'attente même de son enfant. Pour qu'un jour, il puisse être baptisé. Pour qu'un jour, il puisse être pleinement du Christ. Le désir de la mère est toujours écouté par le Christ. C'est pour ça, je crois qu'on peut le dire, que le désir de la mère pour le baptême vaut comme un baptême de désir pour son tout petit enfant. Si l'enfant ne peut pas recevoir le baptême, à cause d'un accident, à cause d'un empêchement majeur. C'est très important cela, le désir de la mère et le désir du père. Ce qui montre bien que leur désir enveloppe l'enfant d'une manière efficace. Il y a comme une participation, vous voyez, du mystère du sacrement et de l'efficacité du sacrement par ce désir de la mère, par ce désir du père. Par cette offrande qu'ils font de leur enfant. Préparation lointaine, préparation immédiate à la naissance. Comprendre que cette naissance première doit s'achever par une seconde naissance. Naissance à la vie divine. Et cette préparation immédiate au baptême fait que les parents doivent avoir un désir que l'enfant soit le plus vite baptisé. C'est le désir des parents, cela. Et des parents profondément chrétiens, qu'ils soient le plus vite baptisés. Quelquefois, ce n'est pas toujours commode à cause des circonstances de la famille, je sais bien, mais il faut qu'il y ait le désir. Là encore, le désir permet qu'il y ait comme une anticipation de la grâce, je crois. Pour le petit enfant qui est remis à sa mère et remis à son père. Vous comprenez bien, si la mère saisit ce qu'est la grâce du baptême, faire que l'enfant échappe à l'emprise des conséquences du péché originel. Et la première conséquence du péché originel, c'est la tare. Il faut le dire, l'enseignement de l'Église est net là-dessus. On n'a pas à changer cela. Il y a de fait, comme conséquence du premier péché de nos parents, je ne sais pas comment, hein, vous non plus, mais j'affirme ce que l'Église nous demande de dire. Il y a une conséquence, c'est que de fait, l'enfant est marqué dans son âme, par la faute originelle. Et il y a les conséquences de cette faute originelle qui se traduisent jusque dans son corps, ce que nous appelons les concupiscences, les concupiscences sont d'ordre sensible, sauf la concupiscence de l'orgueil, qui elle aussi est sensible. Elle est marquée jusque dans l'imagination. Pourquoi notre imagination est-elle tout le temps un peu tournée vers notre exaltation? Pourquoi nous avons instinctivement, j'allais dire naturellement, naturellement en ce sens que nous sommes nés avec les concupiscences, alors c'est naturel, parce que c'est contemporain de notre naissance, c'est contemporain de notre premier moment de notre conception. Notre imagination nous porte à notre propre exaltation, à notre propre égoïsme. Il y a les conséquences du péché. Si nous prenons conscience de cela, nous voulons que très vite, le plus vite possible, notre enfant reçoive la grâce du Christ. La grâce du Christ qui est une grâce d'amour, qui vient purifier son âme, qui vient lier son âme à l'âme du Christ par la grâce. Le baptême n'enlève pas les concupiscences du péché originel, mais fortifie l'âme pour que dès qu'il y aura un combat et une lutte, dès que l'enfant prendra conscience de ce que représente l'orientation vers le bien et la capacité qu'il a de refuser, il est avec lui une force divine. Si les parents aiment leur enfant, ils veulent qu'il reçoive le plus vite possible ce don d'amour qui vient fortifier du dedans l'âme du tout petit enfant et qui le lie directement à Jésus. Comprenez bien, le désir de la mère a cette efficacité merveilleuse, ce qui n'empêche pas du tout qu'il y ait ensuite le baptême qui corresponde à ce désir. Et si ce désir est intense, la mère fera tout ce qu'elle peut pour que l'enfant soit plus vite baptisé. Il faut que les mères aient ce désir. Il faut que le père ait ce même désir. C'est important aujourd'hui, voyez, parce que, étant donné qu'on a un peu moins le sens des sacrements, quelquefois, on demande d'attendre pour des quantités de motifs. Pas la peine de les regarder maintenant. Je crois qu'il faut comprendre ce qu'il y a d'essentiel dans le sacrement de baptême. Et les parents doivent préparer le baptême d'une manière plus aimante encore que la préparation de la naissance. Puisque cette seconde naissance est une naissance à la vie divine qui enveloppe la première naissance et qui est encore plus importante que la première naissance. Il faut que les parents comprennent que c'est le sacrement relié à la famille. Et donc, s'il y a déjà d'autres enfants, et qu'il y a un petit dernier, il faut que toute la famille s'unisse à ce baptême. Et il faut que toute la famille comprenne ce que représente ce mystère du baptême. Comprenons bien, le mystère du baptême n'est pas vécu seulement le jour du baptême. Le mystère du baptême implique un caractère, comme disent les théologiens, dans l'âme de l'enfant. Et si le sacrement de baptême implique un caractère dans l'âme de l'enfant, c'est parce que ce baptême doit être vécu tous les jours. Et donc le désir de la mère, avant le baptême, doit continuer pour envelopper l'enfant, tant que l'enfant n'a pas encore pris conscience de ce que c'était que le baptême. C'est la mère qui en a conscience. C'est les parrains et les marraines aussi. Mais c'est la mère avant tout. Et c'est la mère qui est le plus proche et qui doit porter l'enfant à travers ce mystère de la grâce du Christ. Elle doit souvent y penser. Et elle doit lui dire, même si l'enfant est trop petit, qui n'a pas l'air de comprendre, elle doit prier auprès de lui. L'enfant est baptisé. Il a besoin d'un milieu qui soit un milieu de prière, puisqu'il appartient au Christ. Il est faible, il est fragile, il ne peut pas par lui-même avoir des initiatives. Qu'est-ce qu'il comprend? Je n'en sais rien. Il a la foi, il a l'espérance, il a l'amour. Et il faut un minimum, hein, un minimum de connaissance pour que la foi puisse s'exercer intérieurement. De toute façon, la mère responsable de l'enfant baptisé, responsable de la première croissance de la grâce dans le tout petit enfant, responsable de la croissance de sa foi, de son espérance et son amour, doit comprendre qu'un enfant baptisé a besoin d'un milieu de vie différent qu'un enfant non baptisé. Puisque le milieu, c'est pour le vivant. Et le milieu est différent selon les différents degrés de vie. Et quand l'enfant est baptisé, il vit au niveau de la grâce divine. Et donc, il doit avoir ce milieu de prière. Et c'est la mère qui doit l'envelopper de cette prière. Une mère qui est auprès de son tout petit enfant, qui est encore dans son berceau, doit aimer de prier auprès du berceau. Et quand elle est seule avec son enfant, qu'elle se mette à genoux auprès de son enfant et qu'elle prie pour lui et qu'elle récite son chapelet auprès de l'enfant et qu'elle le récite tout haut pour que l'enfant, même s'il n'a pas conscience, l'entende. C'est réaliser toute une liturgie pour le tout petit enfant qui a besoin de ce milieu chrétien. Je crois que c'est très important. Ça sanctifie la mère de faire ça. Et d'une façon prodigieuse, parce qu'elle sent qu'elle est responsable de ce tout petit. Son sacerdoce maternel se réalise là. Et si ce sacerdoce maternel se réalisait plus, elle loucherait moins sur le sacerdoce ministériel, vous voyez. Et elle comprendrait davantage que le sacerdoce royal de la femme a quelque chose de très grand, puisque le tout petit lui est livré, lui est donné, et que c'est elle qui doit le porter. Quand l'enfant grandit, la mère doit le préparer très vite à l'Eucharistie. C'est pour ça que c'est beau de conduire les tout-petits à la messe. C'est bon, même s'il crie un peu. C'est pas gênant. Le prêtre est gêné par ceux qui ne suivent pas la messe. Mais il n'est jamais gêné par les cris des enfants. Mais ceux qui semblent distraits, ceux qui regardent leur montre toutes les 5 minutes, pendant le sermon, vous savez, c'est très gênant ça. On a toujours envie de dire, eh oui, il est 7 heures là, si vous voulez le savoir. Hein. Ben, de temps en temps, j'ai envie de faire ça. Je sais que je ne dois pas le faire, mais j'ai envie de le faire. Parce que c'est quand même gênant de voir ça. Dans un salon, on ne regarde pas tous les 5 minutes sa montre, quand même, on écoute. Et on est comme ça, je sais très bien. On est tous comme ça, parce qu'on n'est pas éduqués divinement. On manque de mœurs divines si Jésus était là. Quand le pape est là, on ne regarde pas sa montre toutes les 3 minutes. On le regarde. Et Jésus, c'est bien plus. Et Jésus est là qui se donne à nous. Et Jésus est là présent qui se donne à nous. Et la parole du prêtre, même si elle est très pauvre, ça n'a pas d'importance. C'est toujours la parole du Christ qui nous est donnée. Conduire les enfants très vite à la messe pour qu'ils aient le sens de l'Eucharistie. La préparation à l'Eucharistie, ça ne se fait pas en 3 semaines. La préparation à l'Eucharistie, ça se fait longuement. Et il faut conduire les tout petits enfants à la messe. Beaucoup plus beau, ça. Et c'est beaucoup plus grand. Et expliquer, tout simplement, très vite l'enfant comprend. Il y a quelque chose de grand. Et quand les parents communient, ben oui, très bien, que les enfants viennent à la table de communion tout près de leurs parents. Et puis c'est tout. Et qu'on fasse un signe au prêtre qu'il ne doit pas communier, très bien, mais qu'on fasse comprendre à l'enfant que si les parents communient, eux peuvent s'unir. Ce qui est donné aux parents est donné aux enfants. Et qu'un jour, il le recevra. Augmenter le désir de l'Eucharistie à l'enfant en expliquant ce don unique, Dieu qui se donne, Jésus qui se donne. Jésus, l'enfant, est très capable de comprendre ce qu'est Jésus. Il le comprend très vite. On l'a éduqué en l'aidant à comprendre, en lui montrant toute la vie du Christ, et on lui montre ce don. personnel, unique. Jésus qui se donne à travers le pain. Jésus qui se donne à travers l'hostie. Préparer l'enfant à la communion, ça se fait lentement, progressivement, mais ça doit se faire vite, pour que l'enfant ait lui-même soif de la communion, qu'il en ait un désir. Et la préparation à la communion va en même temps avec la préparation au sacrement de réconciliation. Il faut faire comprendre à l'enfant ce que représente le péché. Ce manque d'amour. Et c'est la mère et le père qui doivent faire comprendre à l'enfant ce qu'est le péché. Toujours relativement à l'amour. Les parents font comprendre la grandeur de l'amour. Et que tous leurs gestes auprès de leurs enfants sont des gestes d'amour. Même quand ils corrigent, ce sont des gestes d'amour. Et tous les gestes de correction, de la correction que peut donner le père ou la mère, c'est encore des gestes d'amour. Il doit faire comprendre à l'enfant ce que représente cette attention, cette présence aimante. Il doit faire comprendre comment la désobéissance, puisque ça commence toujours là, est une rupture dans l'ordre de l'amour. On ne fait plus quelque chose ensemble. Il y a une présence qui disparaît. Cette présence qui devrait soutenir, aider, porter par la désobéissance. Il y a une rupture. Faire comprendre que le péché qui implique cette volonté de dire non alors qu'on devrait dire oui. Cette négation à laquelle l'enfant est si porté à cause de l'orgueil qui monte. Hein. C'est la poussée de l'orgueil. Pourquoi l'enfant n'a pas envie d'obéir? Ben c'est parce que tout simplement, c'est son autonomie et son orgueil qui poussent. Et la mère doit être attentive à ça. Alors elle ne doit pas insister trop sur l'aspect négatif, très juste, mais elle doit faire comprendre ce que c'est que le péché. Il ne faut pas dire du tout, il ne faut pas du tout enseigner aux enfants le péché, parce qu'il ne faut jamais parler de péché aux enfants, parce que ça va leur donner du scrupule. Mais pas du tout. Il s'agit de comprendre en premier lieu ce qu'est l'amour. C'est parce qu'on n'a pas insisté davantage sur l'amour et qu'on a insisté davantage sur le devoir sous un aspect négatif que le scrupule est né. C'est à cause de ça. Mais si on insiste davantage sur l'amour et qu'on montre que le péché est une rupture dans l'ordre de l'amour, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas l'aspect obligation, ce n'est pas l'aspect pénitence qu'il faut montrer en premier lieu. Tu n'as pas fait ça, ah tu seras puni. Ah non, attention ça, attention. De temps en temps, c'est nécessaire, mais pas trop. Il ne faut pas tout de suite lier telle faute à la punition, parce que alors ça c'est grave. Tu n'as pas fait ça, tu seras privé de dessert. De temps en temps, c'est nécessaire. Parce que l'enfant a besoin de sentir que ça touche sa vie. Mais il ne faut pas que ce soit premier. Alors là, c'est évident qu'il faut beaucoup d'amour. Il faut que la mère prépare l'enfant à sa première confession. C'est une préparation maternelle et paternelle, cela. Il faut faire comprendre à l'enfant que s'il doit recevoir Jésus, il faut que son cœur soit tout à fait pur, limpide, aimant. Qu'il ait en lui un grand désir de tout renouveler, de tout reprendre avec Jésus et dans l'amour du Christ. Vous voyez, si la mère donne le sens du sacrement de réconciliation, l'enfant spontanément aimera de demander pardon à Jésus. C'est aussi une chose très frappante, cela. On reconnaît tout de suite les enfants qui ont été préparés par leur mère quand on confesse un enfant pour la première fois. Et on a envie après d'aller remercier la mère en disant « Vous avez fait quelque chose de merveilleux ». Ça se voit tout de suite. La manière dont l'enfant s'accuse. Immédiatement. dans la manière dont c'est quelque chose de vrai. Vous savez, des choses, ça se sent tout de suite, ça, que c'est pas livresque. Et un enfant qui a été préparé par sa mère à la confession, au sacrement de réconciliation, aimera de se confesser. Les enfants aiment de se confesser. C'est les prêtres qui n'aiment pas d'entendre les confessions. Ça, c'est différent, vous voyez. Mais c'est l'enfant aime de se confesser parce qu'il a le sens de la miséricorde. Il a le sens de recevoir la miséricorde et de l'amour. Il sait très bien ce qui est donné gratuitement. Ça, un enfant le sait. Il aime la gratuité. Il aime cette gratuité merveilleuse du pardon du Christ, de ce sang de Jésus qui est donné en surabondance. Il faut donner cet amour de la réconciliation avec Jésus, de cette miséricorde donnée gratuitement, et faire comprendre que la petite pénitence qu'on donne n'est pas grand-chose, hein. C'est pas ça, c'est la gratuité de la miséricorde. Alors à ce moment-là, on unit, voyez, baptême, Eucharistie, sacrement de réconciliation, qui doivent être intimement unis. C'est la grâce du baptême qui conduit à l'Eucharistie. C'est la grâce du baptême qui exige et qui réclame le sacrement de réconciliation. Parce qu'on n'a pas gardé d'une manière aussi forte et d'une manière aussi intense ce que représentait cette exigence de l'amour et de l'union avec le Christ. Je m'arrête là, ça ne veut pas dire que les autres sacrements ne sont pas liés à la famille. Le sacrement de l'extrême-onction, lié à la famille. Le sacrement de confirmation, sacrement de mariage, c'est bien évident, mais... On en parle souvent, tandis qu'ici, je me place plus du côté des parents qui préparent à ce que représente cette grande liturgie chrétienne qui est la liturgie sacramentelle.